Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport.
Salut tout le monde, c'est Arthur Merle, journaliste à Eurosport également.
On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, nouvelle émission où je suis ravi de retrouver Arthur Merle après une émission très éprouvante aux côtés de Martin Mosny la semaine dernière. Comment ça va Arthur ?
Ça va très bien, je pense que je vais un peu moins chahuter que l'ami Martin.
On ne peut pas faire plus de toute façon.
Oui.
Arthur, joli programme encore aujourd'hui avec trois gros sujets à traiter. Le premier, c'est le cas Gerson, puisque son père a dit dans la presse, notamment chez nos confrères de l'équipe, qu'il souhaitait que son fils parte le plus tôt possible, dès janvier, qui était très mécontent de la situation de son poulain. Ce sera notre premier sujet, on se demandera à qui la faute. Est-ce que c'est de la faute du joueur? Est-ce que c'est de la faute de l'entraîneur? Est-ce que c'est de la faute du président Pablo Longoria? Ce sera l'objet de notre première partie.
On va ensuite filer du côté de Rennes, toujours en Ligue 1, pour se pencher sur la formation rennaise, se demander si Rennes n'est pas finalement le nouveau fleuron de la formation française, avec notamment un cas qui attire beaucoup l'attention ces dernières semaines, celui de Désiré Doué.
Et puis, troisième partie, on parlera du phénomène Hendrick, un joueur que vous ne connaissez peut-être pas, vous avez peut-être entendu ou lu son nom ces derniers jours, parce qu'on en parle beaucoup, notamment pour un intérêt du Paris Saint-Germain. C'est un jeune Brésilien qui a marqué ses premiers buts en pro cette nuit, dans la nuit de mardi à mercredi. On va essayer de savoir où est-ce qu'il pourra atterrir dans les prochains mois, prochaines années.
Et l'avenir de Cristiano Ronaldo est aussi dans toutes les bouches actuellement. On va se concentrer sur le cas de l'attaquant portugais dans notre rubrique habituelle. Pourquoi on n'y croit pas? Et en l'occurrence, on se demandera pourquoi on ne croit pas à un départ de Cristiano Ronaldo dans un championnat entre guillemets mineur dans les semaines à venir.
Et puis bien sûr, on finira par le traditionnel Merca Quiz où j'ai une revanche à prendre. Pas sur toi Arthur, parce
que ouais, non, je pense que
victime,
pour moi,
mais sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, on y va, Arthur. Gerson, allez, sur le départ, à qui la faute? Alors, on rappelle un petit peu le contexte. Son papa, qui est aussi son représentant, Marcao, a donné une interview à l'équipe où il a dit qu'il était très mécontent de la situation de son fils, qu'il en voulait beaucoup à Igor Tudor et qu'il aimerait que son fils parte le plus tôt possible parce qu'il y avait un objectif, c'était la Coupe du Monde avec le Brésil au Qatar. Ça semble un petit peu plus compromis maintenant parce que Gerson a très peu joué depuis le début de la saison et surtout, il joue de moins en moins ces derniers temps. Zéro titularisation sur les trois derniers matchs de l'OM. Donc forcément, Gerson et son clan sont en colère. Arthur, tout cela nous amène à une question. À qui la faute? Parce que Gerson, c'est quand même peut-être même le meilleur joueur de la deuxième partie de saison marseillaise la saison dernière. Et là, finalement, on est retombé très bas.
Oui, on est retombé bas. Alors, tu l'as dit, il joue très peu, Gerson. Donc, il est en moyenne à 47 minutes par match cette saison. Il reste sur 3 matchs sans jouer. Compliqué de se mettre en valeur dans ce contexte-là. Après, quand il a joué, il n'a pas forcément été très convaincant dans le système Tudor, Gerson. Donc, c'est peut-être le premier fautif. En tout cas, il n'a pas donné tort à Tudor de ne pas le faire jouer. Ensuite, on parle de Tudor. Difficile de remettre la faute sur l'entraîneur de l'OM parce qu'en fait, déjà Tudor est arrivé et n'a absolument rien imposé en termes de recrutement à l'OM. Il n'avait pas du tout le même discours que Sampaoli qui a fini du coup par créer un divorce entre l'OM et Sampaoli. Donc derrière, on peut difficilement lui reprocher de faire ce qu'il veut avec l'effectif qu'il a en sa possession.
D'ailleurs, on peut rappeler, il a évoqué son cas mardi en conférence de presse pour répondre à ce coup de gueule du père de Gerson en disant Cela fait partie du football. Je pense que tous mes joueurs sont forts et ont les qualités pour jouer. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être heureux. Gerson, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a d'énormes qualités. Mais je dois faire des choix. Ce sont les choix du moment sur un match et pour le bien de l'équipe. Donc lui, il se dédouane en disant tout simplement qu'il est dans sa fonction d'entraîneur et qu'il doit faire des choix.
Finalement, et puis qui sont relativement payants jusqu'ici. Alors, on parle dans un contexte où l'OM reste sur 3 défaites de suite en Ligue 1. Donc forcément, c'est la première crise de résultats cette saison. Mais on parle d'un OM qui est au contact du podium en Ligue 1, qui est, à l'heure où on se parle, en position de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, les résultats, si on prend à l'échelle de tout le début de saison, donnent plutôt raison à Tudor sur ce choix-là. Non, le vrai fautif, on a envie de dire, c'est plutôt Pablo Longoria. D'une part parce qu'en fait, c'est une illustration supplémentaire de ce jeu de football manager auquel il essaye de jouer, quand même, à le rappeler un certain Maxime Dupuis. c'est aussi la faute de Longoria dans le sens où, après Sampaoli, Tudor, nouvel entraîneur avec des choix très forts, des idées très arrêtées, tout du moins. Ce genre d'entraîneur, c'est très bien quand ça fonctionne. Par contre, ça vous oblige à changer énormément de joueurs dans l'effectif. Et aujourd'hui, le constat, c'est le suivant, c'est que les cadres de Sampaoli qui sont encore bons aujourd'hui, on a du mal à les trouver. Donc il y a eu beaucoup de changements de statut, on pense à Payet, on pense à Under, on pense même dans une moindre mesure à Guendouzi pour qui c'était difficile en début de saison. Et finalement le seul contre-exemple, et ce n'est pas un réel, c'est peut-être Amin Harit qui était, on va dire, intermittent du spectacle avec Sampaoli et qui aujourd'hui s'est vraiment imposé avec Tudor.
Il s'est vraiment imposé, et pour revenir sur le cas Longoria, on est quand même face aux limites de sa politique, de sa façon de faire aussi. Pourquoi de sa politique, pardon, parce que on ne peut pas lui reprocher d'être allé chercher un entraîneur qui avait une vraie philosophie de jeu, une vraie identité de jeu. Lui, il avait quand même justifié son choix en disant qu'il était très content de passer d'un jeu de possession à la Sampaoli à un jeu qui n'avait finalement rien à voir, beaucoup plus vertical. Je pense quand même qu'il avait du mal à imaginer les conséquences que ça aurait sur des joueurs qui étaient très importants la saison dernière et surtout qui peuvent être très importants pour l'avenir de l'OM. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une situation financière qui est très compliquée, on va en reparler, et avoir des joueurs qui cartonnent, qui se mettent en valeur comme l'a fait Gerson la saison dernière, ça pouvait vraiment être important pour l'équilibre des comptes. Faut aussi parler de la méthode. Il y a eu des vraies conséquences sur certains joueurs, on peut prendre l'exemple de Bamba Dieng qui a fait partir, qui a quand même créé des tensions avec les supporters parce que c'est un joueur qui était très apprécié par les supporters marseillais. Et Gerson, c'est un petit peu pareil, il a un petit peu cette identité de joueur sud-américain qui plaise beaucoup aux supporters marseillais. On peut prendre l'exemple de Lucho González, de Luis Gustavo aussi. Donc se mettre à dos Gerson, c'est aussi se mettre à dos une partie des supporters marseillais. Et pour l'instant, tout va bien à Marseille parce que les résultats sont plutôt bons, même si c'est un petit peu plus délicat ces dernières semaines. Mais si ça commence à se tendre au niveau des résultats, ça risque de créer de plus en plus de tensions. À cela, on peut aussi ajouter que, globalement, l'atmosphère n'est pas très bonne au sein du club, pas seulement au sein du vestiaire, parce que Longoria met beaucoup de pression pour faire bouger les lignes, pour pousser certaines personnes dehors aussi, parce que lui aussi a la pression de Franck McCourt pour réduire les dépenses et surtout pour augmenter les revenus. Donc Longoria est quand même au centre de cet épisode-là, et on va y venir très vite, mais partir cet hiver à quel prix ?
Bah, c'est toute la question. Gerson, il avait été acheté 20 millions d'euros, mais bon, il y a certainement quelques bonus.
Il y a beaucoup de flou autour du montant de son transfert.
Donc c'est une somme qui est certainement plus importante. Alors aujourd'hui, Transfermarkt estime sa valeur à 22 millions d'euros, mais la dernière estimation sur leur site avait été faite au mois de mai. Donc on suppose que lors de la prochaine, le prix va avoir un petit peu baissé. Aujourd'hui, on peut clairement se dire que si l'OM ne serait-ce que récupère ce qu'il a investi dans le joueur, il pourra se considérer très très chanceux. Parce que là, et puis c'est le profil de joueur qu'on a besoin de voir jouer beaucoup. C'est un peu un joueur à highlights, à beaux gestes. Quand il jouait beaucoup la saison dernière, il y avait des beaux buts, il y avait des belles actions individuelles. Gerson, c'est un joueur qui tape à l'œil quand on le voit, mais qui à l'inverse peut vite tomber dans. C'est le profil qui peut vite tomber dans l'oubli s'il est relégué sur le banc. Donc c'est très compliqué, et effectivement, comme tu le soulignais à l'instant, ça va un peu à l'inverse de ce que veut faire Longoria avec cette politique d'achat-revente, quoi.
D'autant que Gerson, c'est un joueur qui a eu un parcours compliqué, avec un aller-retour au Brésil notamment. Il ne s'était pas imposé en Italie. Donc les clubs potentiellement intéressés auront besoin d'avoir des certitudes sur lui, et c'est pas en le voyant sur le banc, ou en tout cas disputer des petits bouts de match, qu'ils auront beaucoup plus de certitudes et l'intention de mettre beaucoup d'argent sur la table dès le mois de janvier. Donc c'est une vraie limite, et là aussi on en revient à la gestion de Longoria, parce que lui, souviens-toi Arthur, en fin de mercato estival, il y avait quand même, selon les informations d'RMC, une vraie intention de le vendre. Longoria aurait été prêt à le lâcher pour 30 millions d'euros. Là, 30 millions d'euros, c'est inimaginable en janvier. Il y a d'autres joueurs qui, selon l'équipe, sont sur le marché. Alors, il y a Pape Gueye qui, lui aussi, est un petit peu plus en difficulté avec Tudor. Et puis surtout, il y a Dimitri Payet.
Ouais, Dimitri Payet. Il y a même Under, je crois, qui serait pas. Voilà, s'il y a une belle offre qui arrive. Longoria ne sera pas contre le laisser filer. Et voilà, l'équipe nous apprend que du coup l'OM derrière aimerait recruter deux joueurs pour tourner derrière le trio qui démarre très souvent comme titulaire en attaque. Donc ça veut dire d'autres arrivées à prévoir, sauf que si vous avez perdu entre le prix d'achat et le prix de revente sur les joueurs dont on vient de parler, c'est difficile de remplacer qualitativement ces joueurs-là, ou alors il va falloir être très moyen. Il y a un détail qu'on n'a pas évoqué aussi, ou du moins qu'on a rappelé au tout début sur Gerson, c'est que la valeur marchande de beaucoup de joueurs cette saison va aussi dépendre de la Coupe du Monde. Et là, avec le temps de jeu qu'il a, la Coupe du Monde, il va l'avoir à la télé. Bref, tout ça, ça ne va pas aider les joueurs de l'OM à prendre de la valeur, et donc ça ne va pas aider l'OM, qui est dans une situation financière instable, on le sait, à dégager des fonds pour se renforcer avec des joueurs qui colleraient un peu plus à ce que veut faire Igor Tudor.
On a fait le tour sur le cas de l'Olympique de Marseille. Arthur, on va pouvoir passer un petit peu plus au nord-ouest de la France, avec Rennes. Rennes qui est un petit peu l'équipe sexy à suivre du début de saison. Alors on avait déjà beaucoup aimé leur saison dernière. Il y a eu cette lettre du CIES, donc l'Observatoire du football, qui est très intéressante, qui a été publiée en début de semaine, qui démontre que Rennes est 13e au classement des équipes ayant formé le plus de joueurs évoluant dans les 5 grands championnats, avec 23 joueurs au total. Et donc on voulait se pencher sur cette information-là pour essayer de rebondir et se demander si finalement Rennes n'est pas devenu le nouveau fleuron de la formation française, Arthur. Alors, il y a des nuances, parce que dans le top 5 des clubs ayant formé le plus de joueurs des 5 grands championnats figure Lyon, à la troisième place derrière le Real et le Barça avec 34 joueurs, et le PSG avec 34 joueurs aussi. Mais est-ce que la comparaison tient vraiment, Arthur ?
Elle tient pas vraiment. On va être clair tout de suite, on va pas faire de suspense. En fait, ce qui est très intéressant quand on regarde ce classement, c'est de regarder le rapport entre le nombre de joueurs formés à Rennes qui sont aujourd'hui dans les 5 grands championnats, à savoir 23, et l'âge moyen de ces joueurs-là, qui est de 23 ans également. Si vous prenez le cas de l'OL, je crois que c'est 25 ans et demi, on regardait tout à l'heure, c'est 2 ans et demi de moyenne d'âge supplémentaire. Ça veut dire que l'OL était très bon pour former des joueurs, mais a moins vendu ces dernières saisons de jeunes pépites que ne le fait actuellement Rennes. Rennes, il suffit de regarder les ventes des dernières années, il y en a pas mal. Mathys Tel, cet été, 20 millions d'euros au Bayern Munich. Eduardo Camavinga, l'été précédent, du côté du Real Madrid, pour 31 millions d'euros. Joris Gnagnon, si on remonte un peu plus loin, du côté du FC Séville. Et puis Diakabi, Ousmane Dembélé, bref, il y a pas mal d'exemples. Et la comparaison, elle tient aussi plus difficilement avec le Paris Saint-Germain, qui, lui, pour le coup, voit beaucoup de joueurs formés dans son club réussir ailleurs avant même d'avoir disputé leur premier match ou de s'être imposé durablement dans l'effectif professionnel parisien. On peut citer Nkunku, on peut citer Diaby, on a beaucoup d'exemples en tête.
Ouais, ce qui est intéressant avec ce classement, c'est que ça donne une bonne idée de la situation actuelle. Parce qu'à Lyon, on a quand même la sensation que même si les jeunes, en tout cas les joueurs formés à Lyon, sont toujours très importants pour le 11, ils font un petit peu moins partie de la stratégie, j'allais dire, sportivo-économique. Alors qu'à Rennes, c'est tout le contraire. On a vraiment une sensation de vraie nouvelle vague avec des jeunes joueurs qui explosent quasiment chaque année, même plusieurs fois par saison, et qui font à la fois partie de la stratégie sportive, qui sont totalement dans la rotation, qui sont totalement dans le 11, et qui aussi permettent à Rennes de dégager des fonds pour derrière qu'il y ait des vrais investissements sur de la post-formation, parce que ça, c'est aussi un sujet qu'on peut évoquer avec des cas comme Edouard Mendy, par exemple, des joueurs qui sont arrivés plus tard, mais qui ont eu un vrai impact à Rennes. Et puis, bah, Paris, tu l'as dit, Paris profite très largement du vivier Île-de-France, qui est probablement le plus grand vivier au monde, pour découvrir des jeunes talents. Et puis derrière, il y a la vitrine PSG qui permet au club de les revendre avant même qu'il n'ait une véritable place en équipe première. On peut citer l'exemple de Kalimuendo, de Nkunku, de Diaby aussi. Donc Rennes, c'est très différent parce qu'il y a c'est vraiment central. La formation est vraiment devenue centrale au Stade Rennais. Et surtout, c'est un cercle vertueux parce que derrière, Rennes a des résultats. Rennes joue très bien. C'est aussi ce qui permet de bien valoriser ces joueurs-là. Et puis, Rennes a une bonne santé économique grâce à ces joueurs-là.
Exactement. Tu disais que la formation était centrale à Rennes. Il y a un homme qui pousse en tout cas en ce sens, c'est Bruno Genesio. Je vais vous lire une déclaration de Bruno Genesio qui est très récente, qui disait « Ça doit être la politique du club dans les années à venir, fidéliser nos jeunes joueurs. Je ne dis pas qu'ils vont rester ici toute leur carrière comme au Real ou au Barça, mais il doit y avoir un vrai projet identifié sur les prochaines années. » Et bah, on est dans le vrai, parce que là, vous regardez, Rennes va encore avoir de très bons joueurs à sortir. Il y a juste à regarder l'effectif actuel. Vous avez Assignon, latéral droit, qui joue assez régulièrement. Truffert, international français, dont on a déjà parlé dans Mercredi Mercato. Leslie Hugo Choukou, 32 matchs en professionnel déjà, alors qu'il n'est âgé que de 18 ans. Il est vraiment dans la rotation au milieu de terrain.
Et qui plaît déjà beaucoup de clubs anglais.
Si exactement. Et évidemment, l'exemple le plus récent et le plus connu, c'est Désiré Doué, qui a seulement 17 ans, 14 matchs avec les professionnels, mais déjà quelques buts, dont certains spectaculaires. On a l'exemple de celui face au FC Nantes récemment. Il y a eu sa rentrée en Ligue Europa aussi récemment, qui avait été impressionnante. Donc on sent que Rennes va alimenter cette nouvelle politique dans les semaines, dans les mois à venir, et qu'il a déjà alimenté par le passé, ben, comme on l'a rappelé, que ce soit sur des joueurs de première zone avec les Camavinga qu'on vient d'évoquer, ou même des joueurs de seconde zone. On peut penser par exemple à Jorginho Rutter, qui est en train de se faire une belle carrière du côté d'Offenheim. Bref, des exemples, il y en a plein, mais vraiment la formation rennaise tourne à plein régime.
Ouais, c'est ça, on a une vraie sensation du club qui monte grâce à ça, Rennes. Finalement, Rennes est un petit peu en train de faire ce qui a fait la force de Lyon à une époque, alors c'est beaucoup moins le cas, et hasard ou non, l'arrivée de Bruno Genesio à Rennes, l'arrivée de Florian Maurice aussi, tout ça est probablement lié, et ça démontre qu'on peut faire des choses intéressantes en formant. Beaucoup de clubs de Ligue 1 devraient prendre exemple sur Rennes actuellement. Pour revenir sur le cas Doué, on est probablement une nouvelle fois sur un joueur qui pourra rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros à Rennes, parce que c'est un talent à part, comme l'est Camavinga, tout simplement. Il y a juste la question de sa prolongation. L'équipe nous disait qu'il y avait un accord. Doué est lié au club jusqu'en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, si prolongation il n'y a pas finalement, ce sera probablement un départ l'été prochain. Pour quel montant, tout dépendra de la suite de la saison. Mais globalement, on ne s'attend pas à un transfert à moins de 20 ou 30 millions d'euros.
Oui, Rennes s'était mis un petit peu, alors on ne connaît pas les dessous du dossier, mais s'était mis un petit peu en difficulté, entre guillemets, en ne faisant signer que 2 ans le premier contrat professionnel à Désiré Doué. Je crois que la limite est à 3 ans, donc ils auraient pu le blinder un peu plus. Après, on ne sait pas vraiment quelle est la nature des discussions qui ont eu lieu, mais le cas Doué va vraiment être central et va en dire beaucoup sur la stratégie rennaise et sur la portée des propos de Bruno Genesio. Est-ce que l'entraîneur breton est vraiment entendu? Voilà, ça va être très très intéressant de suivre la suite de ce dossier. Et en fait, bon, toi tu parlais du jeu, mais vraiment ce qui est intéressant du côté de Rennes, c'est vraiment le projet global. Il y a beaucoup de choses très positives dégagées par le Stade Rennais en ce moment. Donc on l'a dit, le jeu, les jeunes. Et c'est tout bête, mais la prolongation de Lovro-Mayer cette semaine, il y a quelques jours, envoie un bon signal aussi. C'est un joueur qui était déjà annoncé sur les tablettes de clubs un peu plus huppés cet été. Rennes le blinde, va continuer à s'inscrire dans la durée avec lui. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui sont au vert du côté du club breton.
Le vert, c'est aussi la couleur de Palmeiras. Là, on est sur une transition. Attention.
Bien sûr.
Palmeiras, club d'Hendrick, qui est au cœur de notre troisième partie dans ce mercredi mercato. Hendrick, Arthur, c'est un joueur relativement méconnu, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Pourquoi ? Parce que c'est le nouveau phénomène du foot brésilien. Sport, le quotidien espagnol, évoquait une offre de 20 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour ce joueur. Ça a été démenti depuis par son entourage. Mais globalement, Hendrick, il a 16 ans. tout juste. Il vient de marquer ses deux premiers buts en professionnel. On vous l'avait présenté il y a quelques mois maintenant dans un autre épisode de Mercredi Mercato avec Michael Marquez, qui est un scout qui suit beaucoup, beaucoup le championnat brésilien et qui nous l'avait décrit globalement comme un joueur qu'on ne voit qu'une fois tous les 5-6 ans au Brésil, parce que c'est un joueur à part, à la fois parce que physiquement il est déjà très impressionnant pour son âge, aussi parce qu'il sait déjà faire beaucoup de choses. C'est un joueur qui fait un petit peu penser, alors toute proportion gardée, à Ronaldo dans ce qu'il dégage, Ronaldo le Brésilien, parce qu'il est très puissant, il est moins fin techniquement, mais globalement il sait déjà faire beaucoup de choses, c'est-à-dire se construire des buts tout seul et aussi jouer en pivot, ce qui peut être un avantage au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Donc globalement, on est sur un phénomène maintenant. Qui a l'avantage parmi les clubs intéressés? Il y a le FC Barcelone, il y a Real Madrid, il y a le Paris Saint-Germain. Selon toi, Arthur, qui a l'avantage pour s'offrir cette pépite?
Alors, je vais déjà rappeler juste 2-3 chiffres. L'offre prétendue du PSG était à 20 millions d'euros. Sa clause libératoire est à 60 millions d'euros. Bon, on parle d'un joueur de 16 ans, on va pas revenir sur les prix des jeunes joueurs, mais c'est assez hallucinant quand même. Mais on s'oriente visiblement vers un départ entre 30 et 40 millions d'euros. Donc là, les bases sont posées. Hendrick vient de marquer son premier but aussi dans le championnat brésilien, ça c'est très intéressant. Et c'était juste pour rebondir sur son profil joueur brésilien, technique, etc. Mais il marque son premier but de la tête. Et on a eu des images d'un joueur très besogneux cette nuit, donc c'est assez intéressant. Parenthèse fermée, il y a un club qui part comme favori par rapport au passé récent, c'est le Real Madrid. Parce qu'on a les exemples tout simplement, Rodrigo et Vinicius, deux joueurs qui s'étaient engagés au Real à l'âge seulement de 17 ans, en tout cas qui avait signé quand ils avaient 17 ans, le contrat avait été signé, mais ils n'avaient rejoint le Real pour des raisons légales qu'à 18 ans, à leur majorité. Et aujourd'hui, ces deux joueurs-là sont des indéboulonnables du 11 de Carlo Ancelotti. Vinicius, buteur en finale de Ligue des Champions. Rodrigo, qui prend de plus en plus d'épaisseur au fil des semaines et qui s'entend à merveille avec Karim Benzema. Donc forcément, pour un joueur brésilien, quand vous voyez ces exemples-là, vous vous dites « Ok, au Real Madrid, je vais avoir ma chance ». Donc ça donne envie. Après, il y a aussi des contre-exemples. On a le contre-exemple Reynier, par exemple, voilà, qui avait signé pour 6 ans au Real Madrid, très jeune également.
Et qui s'est un peu perdu depuis.
Du côté de Dortmund, où il avait été prêté pour 2 saisons, il a joué, je crois, une trentaine de matchs. Donc bref, il n'a pas marqué les esprits. Et là, il est du côté de Gironne. Donc on est sur une carrière qui est un petit peu sur la pente descendante, même si elle est au tout début. Voilà, avantage Real Madrid a priori, même si recruter ce joueur pourrait être un vrai enjeu pour le PSG et Luis Campos.
Ouais, un vrai enjeu pour le PSG et Luis Campos. On n'a pas trop de doutes sur le fait que ce joueur-là était dans l'œil de Luis Campos depuis très longtemps. Luis Campos et son réseau, évidemment. Ça peut être important pour Campos. Alors, il faudra voir ce qui se passe dans les prochains mois, notamment avec ce qu'on avait évoqué sur les petites tensions, enfin les grosses tensions même qu'il existe entre Luis Campos et le reste de la direction parisienne. Mais globalement, pour lui, ça peut être un vrai enjeu de faire venir un joueur comme ça, parce que ça serait un signal fort que il est capable de tout changer dans un club et de faire venir un joueur qui est le phénomène que tout le monde veut maintenant. Enjeu aussi politique, parce que il y a une vraie guerre entre le Real et le FC Barcelone. Si le PSG intervient en arbitre, ça peut aussi avoir un vrai impact politique. Côté politique, justement, pour le Barça, ça risque d'être beaucoup plus compliqué de rééditer ce que le club avait été capable de faire avec Neymar, c'est-à-dire de souffler le Brésilien au nez et à la barbe du Real Madrid, parce que il y a la question des moyens. Le Barça est encore dans un étau financier. Et globalement, il doit aller chercher des joueurs qui peuvent lui apporter des certitudes. Et quand vous faites venir un joueur tout talentueux qu'il est du Brésil, il y a forcément toujours une petite part d'incertitude. Et en plus, il faut un certain nombre de mois, voire de saisons, pour que le joueur soit véritablement adapté au foot européen. On l'a vu avec Vinicius, on l'a vu avec Rodrigo. Donc globalement, je pense qu'il y a un gros avantage pour le Real Madrid. Parce que le Real Madrid sait faire, parce que le Real Madrid a un avantage aussi, un vrai savoir-faire sur la mise en confiance de l'entourage, d'installer l'entourage aux alentours de la capitale espagnole, prendre soin de cet entourage pour que le joueur, lui, se sente le mieux possible. Donc le Real Madrid a un vrai savoir-faire là-dessus. Je pense que ça lui donne un gros avantage. Et puis surtout, le Real Madrid a maintenant la preuve que ce système-là fonctionne, puisque ces joueurs-là, type Vinicius, Rodrigo, se sont imposés et permettent au Real de rester au top du top au niveau européen. Donc, gros avantage Real Madrid. À voir dans les prochains mois, prochaines semaines, si le Paris Saint-Germain parvient à reprendre un petit peu la main là-dessus. Mais ça dépendra aussi de l'avenir de Neymar, de l'avenir de Kylian Mbappé. Tout ça est lié, évidemment, pour les décisions du Paris Saint-Germain dans les prochains mois.
J'allais dire surtout de l'avenir de Kylian Mbappé, puisque ça concerne le PSG et le Real Madrid, très certainement. Parce que le Real, un Real qui se concentre sur une signature aussi importante que celle de Kylian Mbappé, c'est un Real qui sera un peu moins disposé à recruter Hendrik dans les prochains mois. Donc, à voir à quel moment les clubs vont vraiment s'activer et vont vouloir avancer leur pion dans ce dossier-là. Mais si le Real est occupé avec Mbappé dans les prochains mois, peut-être que ça ouvrira une porte supplémentaire au PSG qui, pour le coup, lui récupérera une belle indemnité de transfert. Donc, à ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on est assez d'accord pour dire que le Barça est un cran en dessous dans cette concurrence-là, parce que le Barça, déjà, a plusieurs jeunes sur lesquels s'appuyer. Il n'a pas besoin d'aller en chercher à l'extérieur. Là, quand on voit Gavi, Pedri, y a du monde pour représenter ce renouveau du Barça. Et en termes de profil, le Barça est équipé sur les côtés offensivement. Pour l'instant, il n'y a pas trop besoin d'aller mettre quelqu'un dans les pattes de Rafinha, dans les pattes de Ousmane Dembélé, encore moins de Robert Lewandowski. Bref, pour l'instant, le Barça n'apparaît pas comme devant dans cette concurrence, dans la course à Hendrik.
Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Hendrik, n'hésitez pas, vous tapez Hendrik Eurosport.fr sur Google ou sur Internet, et vous retrouverez la petite pastille qu'on avait faite à ce sujet pour le découvrir un petit peu plus en détail, notamment sur le plan technique, où on en avait parlé avec Michael Marquez. Un joueur qu'on n'a pas besoin de décrire. Je suis très bon sur les transitions cette semaine.
Oh, bah, comme d'habitude.
C'est dans Cristiano.
Aussi bon que Neymar dans les transitions offensives.
Cristiano Ronaldo, parce qu'il est encore et toujours au cœur de l'actualité Mercato. On voulait rebondir sur cette information diffusée ces derniers jours par le quotidien espagnol AS, qui assure que Cristiano Ronaldo, après ce qui s'est passé la semaine dernière, sa mise à l'écart par Eric Ten Hag, pourrait accepter de rejoindre un championnat exotique. Alors, qui dit championnat exotique dit très probablement MLS aux États-Unis. Tout ça fait l'objet de notre rubrique que vous connaissez maintenant. Pourquoi on n'y croit pas ? Et ben, je te pose la question, Arthur. Pourquoi on ne croit pas à un départ de Ronaldo dans un championnat exotique dès cet hiver ?
Écoute, j'ai trois arguments très clairs. Le premier, c'est l'état physique du joueur. Ronaldo, il a 37 ans, mais son état physique, il est encore bon. Bon dans le sens où il ne se blesse pas, parce que là, sa condition, forcément, il joue très peu sur ce début de saison, sa condition physique est très certainement à retaper un petit peu. Mais j'ai compté 13 matchs ratés sur blessure depuis son départ du Real Madrid. C'est très peu pour un joueur qui vieillit, donc il y a très rarement des blessures musculaires. La deuxième chose, c'est son niveau de jeu. Pour moi, ce qu'on est en train de vivre sur ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est une parenthèse, Ronaldo. Il faut se remémorer un passé très récent, c'est la saison dernière. Ronaldo était titulaire indiscutable à Manchester United et il a bouclé sa saison avec 24 buts, dont évidemment beaucoup en Premier League. Donc Ronaldo, quand il a la confiance de son entraîneur, quand il est titulaire, il est tout à fait capable encore d'apporter quelque chose à une équipe des 5 grands championnats européens. Pour moi, la question ne se pose même pas. Et la dernière chose, c'est l'ego. Je vois mal un joueur avec son CV, avec sa carrière, quitter le gratin du football européen sur cette fausse note à Manchester United. On parlait un petit peu en off de l'exemple Zlatan Ibrahimovic qui avait fini, on pensait qu'il avait fini sa carrière dans les 5 grands championnats avec Manchester United sur une blessure, sur une rupture de contrat à l'amiable avec ce départ au Los Angeles Galaxy. Finalement, il fonctionne bien là-bas, mais il revient en Europe où il est champion d'Italie avec le Milan AC. Je vois bien Ronaldo, alors pas forcément suivre cette trajectoire d'aller en MLS pour revenir en Europe, mais fonctionner de la même manière, c'est-à-dire je ne partirai pas des 5 grands championnats sur une déception.
De toute façon, s'il y a une question, il y a une chose qui est centrale pour moi, c'est que si Ronaldo ne quittera pas les 5 grands championnats tant qu'il n'aura pas la certitude qu'il n'a plus le niveau pour évoluer dans l'un des 5 grands championnats. Et s'il avait cette certitude-là, il serait déjà parti cet été, ou alors il aurait totalement accepté la décision d'Eric Ten Hag de ne pas le faire jouer, ou en tout cas de peu le faire jouer depuis le début de la saison. Ce qui s'est passé la semaine dernière démontre que lui, il a encore la conviction qu'il a sa place dans une grande équipe, en tout cas dans un club majeur du foot européen. Et donc ça démontre quand même qu'il y a une volonté pour lui de continuer et surtout de redresser la barre. L'autre élément qui pour moi est important, c'est que depuis cette mise à l'écart justement la semaine dernière, on sent qu'il y a eu une vraie réflexion chez lui après cette frustration-là, de se dire « Ok, il faut que je me remobilise », c'est ce qu'on voit à travers les informations que nous révèle la presse britannique, aussi à travers les réseaux sociaux. On sent qu'il y a une vraie volonté de se remobiliser, peut-être aussi parce qu'il y a eu une discussion avec son entourage, avec George Mendes, qui a abouti à la conclusion que bah, finalement, pour espérer rebondir, il faut aussi montrer qu'on est encore investi, qu'on est encore capable d'accepter les choix d'un entraîneur, parce que ça sera important aussi pour attirer de potentiels clubs intéressés en janvier prochain. Donc, je ne vois pas Ronaldo partir tout de suite et je ne vois pas Ronaldo accepter un départ en MLS ou même ailleurs. Il y avait eu, souvenez-vous, l'offre d'un club d'Arabie Saoudite cet été qui a été immédiatement refusée par Ronaldo.
Le Sporting aussi.
Le Sporting, absolument. Donc, Ronaldo, je pense qu'il y a toujours un élément qui est majeur, c'est la Coupe du Monde, ce qui va se passer au Mondial. Et je ne serais pas étonné de voir Ronaldo de nouveau impliqué, de nouveau accepter sa situation à Manchester, qu'il ne joue pas tous les matchs et qu'il finisse par rebondir, soit Manchester United, moi j'ai encore beaucoup de mal à l'imaginer partir cet hiver, soit dans un nouveau club l'été prochain, mais la MLS, ça semble encore beaucoup trop tôt pour Cristiano Ronaldo.
La question centrale, et tu viens de l'effleurer, c'est quel club pourrait l'accueillir l'été prochain ? Est-ce qu'il y a encore des clubs de haut niveau qui seraient considérés comme crédibles pour une arrivée de Cristiano Ronaldo ? Et en l'occurrence, oui, on pense beaucoup à Chelsea quand même. Alors, d'un point de vue sportif pour le plan de jeu de Graham Potter, je ne sais pas si ça fait sens.
Étonnant.
Mais en tout cas, d'un point de vue politique de Todd Boehly, le nouveau propriétaire, alors actionnaire minoritaire, mais l'homme fort des Blues actuellement, ça fait sens parce que ce serait la première recrue un petit peu clinquante. Donc voilà, ça c'est quand même une piste qu'on peut considérer comme sérieuse, la piste Chelsea, surtout que la presse anglaise l'évoque assez régulièrement. Donc voilà, la première question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des clubs qui vont être candidats ? Je pense qu'il n'y a plus énormément de ces clubs-là, mais il en existe, et je pense que c'est des pistes qui peuvent être considérées comme sérieuses. Il y avait aussi le Napoli, dont on parlait un petit peu. Alors, Naples qui a compensé le départ de ses stars, en tout cas de ses hommes forts, Insigne et Mertens, par un recrutement très intelligent et loin d'être clinquant. C'est peut-être plus dans la politique du club.
Et surtout qu'à laisser partir ses stars aussi pour des raisons financières, ouais. On imagine mal derrière aller chercher Cristiano Ronaldo et son salaire monstrueux.
La certitude, c'est que Ronaldo va devoir faire un effort sur son salaire, par contre ça c'est indiscutable.
Voilà, on a fait le tour pour cette rubrique, on va passer au moment que tout le monde attend.
Sauf moi.
C'est le Merca Quiz avec Quentin Guichard. Quentin, bienvenue. Alors, tu n'as ni respecté le code couleur.
Ouais, c'est vrai.
Ni le jour de l'émission, puisque sur ton pull il est inscrit Saturday. Football.
Ouais.
Ni respecter ton réel niveau, puisque derrière ton pull est inscrit Bergkamp.
Oui, mais vous ne m'avez pas prévenu. On ne m'avait pas dit que c'était journée blanche aujourd'hui et on ne m'avait pas dit que c'était chemise. Donc,
et on ne t'avait pas dit que l'émission s'appelait mercredi.
Non plus. Je découvre. Donc, mais là, pour la semaine prochaine, j'aurai peut-être un pull mercredi football.
J'espère bien, Quentin. Mm. Est-ce que tu peux nous rappeler une nouvelle fois, comme tu sais si bien le faire, les règles du Merca Quiz?
Bien sûr, ça tient en une phrase. Et tu sais qu'un bon concept, c'est ça la règle. Quand les producteurs ils veulent entendre le topo d'un film, il faut que ça tienne en une phrase.
C'est pour ça que quand on a créé l'émission, ça faisait 10 pages.
Le Merca Quiz, c'est très simple. Je vais dérouler la carrière d'un joueur. Et le premier de vous deux qui découvre l'identité de ce joueur remporte un point au Merca Quiz Ranking. Petit point sur le classement.
Classement qu'on
a complètement oublié. Bon, j'ai toujours pas fait cette histoire de coefficient de victoire. Donc,
non, mais hésite pas, fais ton travail au bout d'un moment.
Donc, Julien, tu es toujours en tête. Voilà.
Ah bon ?
Et oui, parce que j'ai pas fait le coefficient. Mais une fois que le coefficient sera en tête, ça sera mis en place. Hop, ça sera autre chose.
Ça fait plaisir.
Donc, pour le monter en tête, devant
Après,
Martin.
Il faut aussi que la fidélité soit récompensée. Moi, je suis là toutes les semaines.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Je suis toujours devant Glenn ou pas ?
Bon. Je crois que tu es devant Glenn au nombre de défaites.
Voilà. C'est bien, il a l'air bien fait ce classement en tout cas.
Ouais, c'est n'importe quoi. Et il y a une règle, une deuxième règle très importante, c'est la règle Pereira-Morin. C'est la proposition d'un nom de joueur avant même le premier indice. Je vous écoute, messieurs.
Alors pour moi, ça sera Steven Nzonzi.
Oh,
pas mal.
Pas mal.
On va rester dans ces 6 un peu manieurs de ballon.
Je peux même pas dire que c'est pas ça.
Non, non, mais ça se trouve, c'est, non, non, ça se trouve c'est la fin du jeu. J'ai la bonne réponse, ouais. Mais donc, il s'excite. Je sais pas pourquoi.
Donc c'est pas ça du tout.
Non, mais parce que moi je savais que la fin du jeu arrive.
Bien sûr. Et là, là voilà. Maintenant.
Avec notre ami Nemanja Matic.
Oh, joli.
Ça commence dans des pays un peu alambiqués.
Et ben Nemanja Matic, je me demande si j'ai pas hésité à le choisir pour le quiz du jour.
Ah!
Mais je l'ai pas choisi.
Ouais. Je tombe plus dans le panneau, c'est bon. Ouais.
Eh bien, c'est parti, Quentin.
C'est parti.
La voix est libre. Nous t'écoutons.
Je cache ta fiche.
Le monde du football me découvre en 2004. Oula. Alors âgé de 12 ans,
faut que je fasse le calcul.
Je fais parler de moi en étant tout proche de signer au FC Barcelone. Régulièrement appelé dans les sélections nationales de jeunes, je participe à 17 ans à mon premier match professionnel, en juin 2009, dans le championnat de clôture et un match entre River Plate et le Tigré. Avec le numéro 10 lors de la saison 2010-2011, j'inscris mon premier but chez les professionnels en 2010 face à Cologne lors du championnat d'ouverture. En mai 2011, je fais mes débuts avec l'équipe nationale argentine lors d'un match amical contre le Paraguay. Quelques semaines plus tard, je participe à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Colombie. Malgré mes bonnes prestations avec 3 buts en 4 matchs, l'Argentine perd en quart de finale contre le Portugal. Mon club River Plate est finalement relégué en deuxième division en juin 2011. Quelques semaines plus tard, je signe à l'AS Rome dans le cadre d'un transfert d'un peu plus de 15 millions d'euros. En octobre 2011, pour ma première titularisation, j'inscris mon premier but en Serie A. Je réalise mon premier doublé en janvier 2012 lors d'une rencontre de Coupe d'Italie contre la Fiorentina. Mon équipe s'impose par 3 buts à 0 ce jour-là.
Il est facile.
Pour ma première saison, sous les ordres de Luis Enrique, je suis auteur de performances encourageantes. Mais c'est avec l'arrivée de Zdeněk Zeman à l'été 2012 et son football offensif que je semble exprimer pleinement mon potentiel. Avec 7 buts,
je suis à 2 doigts d'abandonner.
Avec 7 buts au compteur, au bout de 10 journées, je dépasse déjà mes performances de la saison précédente et inscris même mon premier doublé en Serie A en octobre 2012 face à l'Udinese.
Déjà, on est passé de 2004 à 2012 en deux phrases. D'habitude, ouais. Tu mets plus de temps que ça.
Mais parce que à River Plate, voilà, c'était pas un joueur non plus.
C'était pas intéressant.
Okay.
Lors de la saison 2012-2013, je termine avec 30 titularisations et 15 buts au compteur et je suis finaliste de la Coupe d'Italie perdue face à la Lazio.
C'est pas Fadio.
En août 2013,
je me mords les doigts, là.
Je rejoins Tottenham pour 30 millions d'euros.
Lamela ?
Voilà.
Allez, putain.
Arthur.
Non mais là je l'avais plus à la Roma.
Donc 12 ans il a failli signer au Barça.
À 12 ans il a failli signer au Barça parce qu'il montrait des choses très intéressantes dans les équipes de jeunes de River Plate. Puis finalement ça s'est pas fait parce que les autorités argentines s'en sont mêlées, etc.
J'avais un plus vieux en tête, j'avais un trentenaire. Il a quel âge?
Bonne question. Quel âge a Eric Lamela sachant qu'il avait 12 ans en 2004? Alors quel âge il a?
Il a 30 ans.
Voilà, tout simplement.
Dis donc, le mercato c'est pas votre truc, mais les maths non plus visiblement.
Ouais, non, ça c'est sûr que. Et aujourd'hui où joue-t-il, tiens?
Il joue à Séville.
Je peux même te dire comment il a marqué pour un des premiers matchs de Sampaoli.
Ouais, mais c'est pas
ça. Je vais pas te le dire parce que c'est pas le but du jeu.
Ouais.
Et il a remporté le prix Puskás en 2021.
Bien sûr, pour cette.
Oui.
Pour ce coup du foulard.
Mais oui, contre Arsenal.
Contre Arsenal. Voilà. Exactement.
Eh bien, c'est une nouvelle victoire. Écrasante, ouais. Donc je suis très
écrasante. Fier. On n'est pas obligé de.
T'étais loin de l'avoir. Messieurs, je suis ravi.
Bravo.
Quentin, merci beaucoup pour ce Mercato Quiz. On remercie Alban pour la gestion de la régie, du son, de l'image, de tout ce que vous voulez. On vous remercie, vous, de nous avoir écoutés parce que c'est pas toujours facile. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de votre club fétiche.
Ciao.
Salut.